Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour. Une rencontre avec Henri Amouroux de l'Académie des sciences morales et politiques à l'occasion de la remise du prix Albert Londres à Istanbul. D'abord, l'histoire d'Albert Londres.
Albert Londres a eu une grande chance dans sa vie. Il a eu une fille. Car s'il n'avait pas eu une fille, il n'y aurait pas de prix Albert Londres. C'est en effet Floris Albert Londres, la fille d'Albert Londres, qui avait dû naître en 1910 ou 1911. Sa maman est morte très vite, très rapidement, quelque temps après la naissance de cette fille. Cette fille avait une adoration pour son père.
C'est bien pour une fille.
C'est bien. Elle était fille unique, une adoration pour son père. Elle le conduisait au bateau à Marseille lorsqu'il partait en reportage. Elle venait le chercher lorsqu'il rentrait de reportage. Et après la mort d'Albert Londres, la mort tragique d'Albert Londres, qui est mort sur le Georges Philippard en rentrant d'un reportage qu'il avait fait en Chine.
En 1932,
Le Georges Philippard a pris feu. Il y a eu d'ailleurs en 1931 et 32 des séries noires, plusieurs paquebots modernes, il ne s'agissait pas du tout de paquebots anciens, ont pris feu, un Allemand, un Anglais, un Français, ont pris feu, comme ça, ont brûlé, et beaucoup de passagers sont morts. Floris Albert Londres, qui était journaliste, a eu à ce moment-là immédiatement l'idée de créer un prix Albert Londres. Or, à l'époque, n'est-ce pas, il n'y a qu'à voir les membres du premier jury, il y avait des hommes absolument remarquables. Il y avait Édouard Helsé, qui était un grand journaliste. Il y avait Henri Béraud. Très, très grand journaliste.
Oui, qu'on a oublié, hélas, un peu
qu'on
aujourd'hui.
Oubliés l'un et l'autre. Il y avait Pierre Mille, très grand journaliste, qui va mourir en 1941. Pierre Mille en 1941. Tout ça, tous ses confrères étaient de grands journalistes. Mais qu'est-ce qui assure la postérité? C'est qu'il y a après des hommes et des femmes qui vont parler de vous, qui vont continuer à dire votre nom. Alors, Floris Albert Londres, en créant le prix et en léguant tous ses biens au prix, car elle était mariée à un contre-amiral, mais elle n'a pas eu d'enfant, et donc elle a tout. J'ai bien connu Floris Albert Londres. Floris, en mourant, laissait tous ses biens au prix. Donc, l'appartement dans
c'est
lequel...
pas une fondation néanmoins, c'est un prix.
C'est un prix.
Une association reconnue d'utilité publique. Oui.
Alors, Floris Albert Londres a créé ce prix avec la volonté, tout de suite, de perpétuer la mémoire de son père. Ce prix créé a continué, il a été interrompu pendant la guerre, il n'a pas été décerné pendant la guerre, pendant l'occupation, bien entendu, il n'a pas été décerné. Et il a eu, après la guerre, je suis le cinquième président. Il y a eu Édouard Helsé qui était le premier président. Je suis en train d'oublier le deuxième président et c'est pas bien. Et le troisième, c'est Kessel. Et le quatrième, c'est Coquet. Le cinquième, c'est moi. Donc depuis 1933 jusqu'à 2005, il y a eu cinq présidents.
Vous avez été président en 1985.
J'étais président en 85. Voilà. Ça fait une longue présidence. Je voudrais bien abandonner. J'ai l'intention d'abandonner.
Mais personne ne veut que vous abandonniez, je parie, dans ce prix.
Oui, mais le jury n'a pas envie. Ils ont tort. Il faut renouveler un petit peu les présidents. Bref, je suis président, élu chaque année par mes confrères, ce qui est pour moi un grand honneur et une grande joie, parce que c'est véritablement un prix où nous essayons chaque année, avec une seule limite, c'est la limite de l'âge, c'est 40 ans.
Bon. Ils font un lauréat de moins de 40 ans.
Oui, nous faisons parfois des exceptions, mais enfin c'est rarissime. Les exceptions sont par nature rarissimes. Et il faut donc nous essayons véritablement de choisir sans référence au journal, sans aucune référence politique, sans aucune référence à la télévision, puisque depuis 1985, grâce à notre ami Henri de Turenne, qui appartient au jury, qui est vice-président, nous avons un prix de l'audiovisuel, et c'est une très bonne chose d'avoir un prix de l'audiovisuel, car on a vu au fil des années les deux plateaux de la balance déséquilibrés. Nous avons donc un prix d'écrit depuis 1933, un prix d'audiovisuel depuis 1985. Au début, bon, il y avait à peu près autant de candidats pour l'écrit que pour l'audiovisuel que pour l'écrit. Et petit à petit, les deux plateaux de la balance se sont déséquilibrés. Aujourd'hui, nous avons 35, 37, 40, voire 40, 42 lauréats de l'audiovisuel et une vingtaine de lauréats de l'écrit. Malheureusement, le grand reportage s'est perdu dans les journaux et il s'est perdu notamment dans la presse de province. Nous n'avons pratiquement plus de lauréats de la presse de province, ce qui est fort dommage, car parmi nos lauréats, nous avons trois lauréats qui étaient des journalistes de Sud-Ouest, Jean-Claude Guillebeau, Pierre Veillité et Yves Arthé, et qui sont de très bons journalistes, qui étaient donc au journal Sud-Ouest. Yves Arthé toujours. Alors,
maintenant, il y aurait plus d'audiovisuel, de journalistes qui présentent leur... Qu'on présente sa candidature pour le prix Albert Londres ou est-ce qu'on est choisi, sollicité ?
Non, on présente sa candidature. Alors, pour en revenir à Albert Londres, Albert Londres a donc une chance, sa fille, et puis, si j'ose dire, et naturellement je mets le mot entre guillemets, une autre chance, la guerre. Or, la guerre est un grand malheur, naturellement.
Oui, mais pour un reporter, ça fait des années.
C'est une chance. D'autant plus qu'il n'était pas du tout grand reporter. Il ne signait pas. Il était écotier et il s'occupait du Parlement. Alors, il faisait des échos, comme ça. Petits échos qui paraissaient dans des journaux. Et puis, beaucoup sont mobilisés. Lui n'est pas mobilisé. Je ne sais pas, raison de santé. Enfin, bref, il n'est pas mobilisé. Et il est envoyé à Reims au moment crucial où les Allemands bombardent Reims. Bon, il faut replacer les choses pour les auditeurs, l'histoire à l'époque. Les Allemands avancent avant la bataille de la Marne, dépassent Reims de plusieurs dizaines de kilomètres et boivent pas mal de bouteilles de champagne, ce qui a peut-être été une des causes de leur défaite.
Bref. Vive le champagne.
Et donc, il y a la victoire de la Marne. Ils reculent. Ils vont s'installer au-dessus de Reims. Il y avait une... Après la guerre de 70, donc, la France avait perdu les forts qui défendaient la frontière.
Oui, puisque bien sûr, oui.
L'Alsace et la Lorraine sont
passé,
annexées.
Bien sûr,
bon, la Moselle sont annexées. Alors, bon, ces forts sont perdus. Un général qui s'appelait Serré de Rivière va reconstruire une nouvelle ligne de fortification qui passe à 8 km au-dessus de Reims. Les Allemands s'installent là, ils vont bombarder Reims quotidiennement jusqu'en 1918, jusqu'à la fin de la guerre. Quand ils partiront, il restera 7 maisons intactes à Reims. 7, 4 et 3, 7.
Et la cathédrale ?
Et la cathédrale reste naturellement. Les Allemands ne la visaient pas, c'est pas vrai, mais ils l'atteignaient. Vous tirez à côté, ça atteint.
Évidemment, oui.
Les obus n'ont pas, vous comprenez, n'ont pas la certitude. C'est la certitude dont on nous dit que les missiles, ont aujourd'hui. Non, c'était pas comme ça. Donc il arrive, il va écrire deux articles dans le journal qui s'appelait Le Matin, qui vont décrire la cathédrale de Reims. Et il va faire cela avec du lyrisme, naturellement. Il va même voir des flèches qui n'existent pas. Enfin bref, c'est un peu... Il y a du lyrisme dans tout ça, mais ça frappe beaucoup les populations, parce que la cathédrale de Reims touchée...
C'est très symbolique,
c'est très
bien
symbolique,
sûr.
Et ça donne à Albert Londres son statut de grand reporter. Alors après, il va continuer. Il va être sur le front français. Il va aller en 1915 participer à cette opération des Dardanelles qui s'est révélée désastreuse, qui était une idée de Churchill, qui n'était pas en soi une mauvaise idée, sans doute. Si c'est toujours le problème des idées. Ce sont des bonnes idées si elles réussissent, de mauvaises si elles échouent.
Absolument.
L'idée de Churchill était de permettre, en passant par les Dardanelles et en battant... En écrabouillant les Turcs qui étaient l'allié de l'Allemagne, n'est-ce pas, de passer et d'apporter une aide à la Russie, puisque la Russie était notre alliée en 14-18. Mais la Russie finit, et ça provoquera la révolution de 1917, finit exsangue, avec des troubles. Et évidemment, il est très difficile de ravitailler la Russie par des mers qui ne sont pas prises à moitié du temps par les glaces. Donc en revanche, si on avait pu passer par les Dardanelles,
bien sûr, ça se comprenait très bien.
Ça se comprenait, mais...
Ça a été une catastrophe.
Mais les Turcs, ceux qui sont de remarquables soldats, l'artillerie allemande qui était turque, qui était servie par des Allemands, et les artilleurs allemands étaient des artilleurs compétents, va détruire une grande partie de la flotte franco-anglaise. Et puis, les soldats qui sont débarqués vont occuper, je sais pas moi, un kilomètre et demi du territoire turc. Ce sera épouvantable. Il y aura au total 500 000 morts entre les deux armées, et ça a été une opération absolument désastreuse. Alors Albert Londres est là, n'est-ce pas ? Beaucoup plus d'ailleurs en Grèce, parce que la Grèce était à la fois notre ami, le peuple était ami des Français en 14-18, le roi était ennemi des Français, et le gouvernement était ami des Français. Le roi Constantin finira par partir, Albert Londres va vivre tout ça, et il va commencer sa carrière de grand reporter à ce moment-là. Alors après... C'était un homme qui était doué d'une grande vertu, deux points, l'indépendance, point. Seulement l'indépendance, à l'époque, c'était possible, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'il y avait un ailleurs. Aujourd'hui, pour la presse, surtout la presse écrite et la presse audiovisuelle aussi, il n'y a pratiquement pas d'ailleurs. Lorsque Albert Londres écrivait, proposait un sujet à son rédacteur en chef, et que le sujet ne plaisait pas à son rédacteur en chef, il traversait la rue, et il savait qu'il y avait un ailleurs qui était prêt à l'accueillir, c'est-à-dire qu'il y avait des journaux qui tiraient à 900 000 et qui vendaient 900 000, 900 000, 1 million d'exemplaires. L'écrit,
une autre époque,
le grand triomphe de la presse écrite, c'est entre les deux guerres, c'est avant la guerre, avant la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre et après la Deuxième Guerre, après la Première Guerre mondiale. Il y avait une presse écrite, la radio balbutie à partir de 33-34, la télévision est à venir, donc tout ça, l'interphone, l'internet, tout ça n'existe pas. Il faut toujours, lorsqu'on parle d'une époque, se replacer dans les conditions d'existence de l'époque. Alors Albert Londres va devenir une espèce de flâneur salarié, comme on disait en parlant des grands reporters, qui étaient peu nombreux. Il y avait quelque chose de très important qui n'existait pas. Les voyages organisés.
Les pas voyages de tourisme, organisés. Enfin, que des grands voyageurs. Des grands voyageurs. Il n'y avait pas les touristes.
Le voyage organisé, ça vous fout en l'air, le reportage. Mmh. Les gens partent de la même ville. Périgueux, si vous voulez. Ils sont tous ensemble dans le même autobus. Ils voient le même paysage en même temps. Ils mangent la même nourriture, généralement autant que possible, aussi française que possible. Ils entendent des commentaires, ils croient avoir vu. Alors ils disent, j'ai fait l'Égypte, j'ai fait Israël, j'ai fait l'Inde, j'ai fait la Turquie.
On est loin du reportage.
Ce n'est pas vrai, on est loin du reportage. Mais... Et évidemment, vous dites, mais qu'est-ce que vous allez m'apprendre, monsieur ? Moi qui ai fait... Alors, ça consiste à voir des monuments, à voir des musées, à entendre un baratin, plus ou moins influencé, qui a une vocation d'influence. C'est ça. Alors, Albert Londres va se promener, donc, comme... Et il va choisir très vite, ça c'est évidemment la grande chance qui fait qu'il continue, qu'il persiste, qu'il dure, qu'on lit encore ses livres. Il va se passionner pour les sujets de société. Et les sujets de société, à l'époque, c'était quelque chose de très important, ça reste très important aujourd'hui. On en parle moins, on en parle peu. Songez donc qu'il pouvait publier 27 articles à la suite. Quel est le journal qui acceptera 27 articles à la suite ? Quelle est la radio qui acceptera 27 émissions à la suite ? Tout ça n'existe pas dans un moment, le nôtre, où tout est commandé par la rapidité de l'information, c'est-à-dire fatalement par la légèreté, la perméabilité de l'information. Donc Albert Londres avait ce grand avantage de pouvoir écrire long, de mettre un mois ou un mois et demi pour se rendre sur les lieux de son reportage, Donc, d'avoir un carnet d'adresses fourni, puisqu'il parlait avec les gens qui étaient sur le bateau. L'avion n'existait pas. Il existait, mais pas comme ça. Pas comme moyen de transport facile. De rester sur place 3 ou 4 mois et pas 3 jours ou 4 jours comme aujourd'hui.
Mais oui.
De revenir un mois de voyage, d'avoir le temps de méditer, de travailler, d'écrire, de réfléchir à ce sujet.
Canal Académie. Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Avec Henri Amouroux, nous évoquons la figure d'Albert Londres. Nous avons laissé Albert Londres grand reporter et les conditions dans lesquelles il pouvait exercer son métier à l'époque. Je crois que vous auriez encore beaucoup de choses à nous dire sur les lieux où il est allé, car avec le jury du prix Albert Londres, vous-même, vous allez sur les traces d'Albert Londres. Vous suivez ces traces.
Oui, il y a quelques années de cela, 6 ans, 7 ans, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller mettre nos pas dans les pas d'Albert Londres, et nous avons commencé en allant en Guyane. Et vous savez qu'Albert Londres est célèbre surtout par un de ses livres, c'était une suite de reportages. Ses livres, c'est une addition de ses reportages, ce qui s'appelle Au bagne.
Au bagne, voilà, paru chez Albin Michel en 1924.
Oui, mais ses articles avaient paru. Il était allé au bagne, d'autres y étaient allés avant lui, d'autres avaient vu les conditions déplorables de vie des bagnards. Bien entendu, les bagnards ne sont pas des enfants de cœur, mais ils vivaient dans des conditions épouvantables. Nous sommes aujourd'hui, il y a des mots qu'on ne dit plus. Il y a 50 ans ou 60 ans, quand on disait à un gosse, si tu continues, tu finiras au bagne, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens.
Parce qu'on envoyait au bagne pour avoir volé une miche de pain. C'est une histoire
Non, mais je veux dire, tu finiras au bagne.
C'était
parce que
une expression.
Oui. Ça voulait dire, tu finiras dans des conditions vraiment très
abominables. Oui.
Pourquoi ? Je veux dire, c'est très simple. D'ailleurs, il y avait la double peine. Ceux qui étaient condamnés à 6 ans de bagne, d'abord, le bagne était isolé. Vous ne pouviez pas vous évader. Il y en avait qui tentaient. Mais ils étaient bouffés par les requins, 2 fois sur 2. Vous étiez repris dans la brousse, vous ne pouviez pas vous évader. Ceux qui étaient condamnés à 6 ans étaient condamnés ensuite à rester 6 ans de plus en Guyane, sans pouvoir revenir. Non pas comme bagnard, mais comme travailleur libre, seulement il n'y avait pas de travail. Si bien qu'ils étaient mieux, si j'ose dire, ils étaient moins mal au bagne qu'ils n'étaient en liberté. Quant à ceux qui étaient condamnés à plus de 6 ans, ils devaient rester à vie en Guyane. Alors, Albert Londres est allé là, il a vu l'administration, il avait tout un tas d'autorisations, il n'a pas été très bien reçu, c'est normal, et il a parlé aux gens, et il avait un talent que beaucoup de journalistes aujourd'hui ont perdu, de reporters ont perdu. Je vais vous dire, lorsqu'il voyait 10 bagnards, on entendait 10 discours différents. On entendait 10 voix différentes. Et si j'ose dire, presque 10 accents différents. Aujourd'hui, vous prenez des articles qui sont très bien, très renseignés. Les journalistes aujourd'hui, les grands reporters aujourd'hui, les journalistes ont fait beaucoup plus d'études que n'en avait fait Albert Londres, oui. Que je crois n'en avait oui. fait aucune, mais qui avait du punch, qui avait du ventre, qui avait, bon, qui savait de parler, qui savait écrire et qui savait écouter. Il y a un titre de Paul Claudel. Le titre est le suivant, L'œil écoute.
Oui.
C'est un recueil de poèmes, je crois. L'œil écoute. Eh bien, Albert Londres, l'œil écoutait. C'est-à-dire, il voyait des gens, mais en même temps, il les entendait et il transcrivait ce qu'ils disaient. Donc, il y avait du dialogue. Aujourd'hui, vous prenez des grands reportages qui sont certes très documentés, qui sont certes bien écrits, qui sont certes tout à fait travaillés. Mais vous ne sentez pas la présence humaine. Et ce qui compte, c'est la présence humaine. Ce qui compte, ce sont les mots. Et il n'est pas vrai qu'un bagnard dise la même chose qu'un autre bagnard. Il n'est pas vrai qu'un homme dise la même chose qu'un homme. Il n'est pas vrai qu'une femme dise la même chose qu'un homme.
Et Albert
donc,
Londres...
Albert Londres
oui.
Vous l'écoutiez, mais on voit vivre les gens.
Vivre les gens. Et est-ce qu'il faisait des photographies ou est-ce qu'il était accompagné d'un photographe?
Non,
ça s'accompagnait. C'était que du texte, il n'y avait pas de photographie.
Non, il y avait très peu de photos.
Ça aussi, c'est un grand changement.
C'était un grand changement. Et c'était le texte, et on le lisait. Et, n'est-ce pas, la télévision a bouffé le temps de lecture. Lorsque vous êtes devant la télévision et que vous regardez des choses, vous regardez ce que vous n'iriez pas voir à 3 mètres de là s'il fallait sortir dans la rue. Et vous êtes scotché à cet écran, comme ça, pour voir des choses qui souvent sont idiotes. Et que vous ne feriez pas 3 mètres pour voir si vous n'aviez pas le bouton, là, comme ça, allumé automatiquement, en mangeant le repas du soir. Tout ça, ça a supprimé la conversation. Ça a séché tous les villages à partir de 8 heures du soir. Il n'y a plus personne
dans
les rues.
Bien sûr, ils ont tous la même information. Parmi les ouvrages d'Albert Londres, il y en a un qui s'intitule Les forçats de la route et l'autre Tour de France, Tour de souffrance.
Oui.
Et vous-même, vous êtes allé sur le Tour de France aussi, avec le jury du prix.
Alors, nous avons fait la Guyane. C'est passionnant et très émouvant car les débris du bagne, ce qui reste du bagne, est tout de même assez conséquent pour qu'on soit tout de même très touché.
La terre est marquée.
Simplement la terre. Vous avez encore
les murs,
les constructions.
Les graffitis même.
Et les tombes. Bon, tout ça est très émouvant. La place de la guillotine, puisqu'il y avait la guillotine pour les bagnards. Aussi.
Alors après Cayenne, ça a été le Tour de France.
Le Tour de France, grâce au directeur du Tour de France, qui était un homme absolument charmant. Et nous avons pu faire 4 étapes du Tour de France et 4 étapes des Alpes. Et les confrères se sont relayés. Le Tour de France avait mis à leur disposition une voiture dans laquelle il y avait 3 journalistes. Et puis un chauffeur, naturellement, qui est un ancien chauffeur. Le chauffeur est toujours, dans ces cas-là, un ancien coureur cycliste.
Bien sûr, pour savoir suivre et ne pas ennuyer les coureurs.
On est dans la course. Donc il sait ce qu'il va faire, etc. Quand il peut doubler, quand il ne peut pas doubler.
Et Albert Londres avait fait ça aussi, c'est-à-dire il était dans une voiture. Comment ça s'était passé pour lui?
Oui, il était dans une voiture, mais ça se passe, vous savez, alors, à l'époque où les gens réparaient les coureurs. Quand le pneu crevait, on réparait sur place. C'était l'histoire. Le temps des frères Pélissier, enfin, tout ça, c'était vraiment il y a très longtemps. Alors bon, c'était le début, pas le début du Tour de France, enfin, c'était la période héroïque du Tour de France, et il a vécu ça. Puis après, nous sommes allés en Russie, en 1920, je crois, il était allé en Russie, et c'était l'un des premiers journalistes à aller dans la Russie des Soviets. Et c'était un peu Tintin dans la Russie des Soviets, c'était un peu ça, vous savez. Alors il était allé en Russie, nous sommes allés en Russie, ces reportages n'ont pas grand-chose à voir, ils ne comprenaient pas très bien le pays, ce pays qui s'était révolté. Je dois dire qu'il n'était pas le seul à ne pas comprendre. Il avait écrit des reportages qui étaient celui, au fond, d'un petit bourgeois français face à la révolution bolchevique. Et puis l'an dernier, nous sommes allés en Chine. C'était absolument passionnant parce qu'il a vu, il est allé alors là à plusieurs reprises en Chine.
Alors où en Chine exactement? Parce que le pays est tout de même vaste.
Le pays est immense. Nous sommes allés en Chine, nous sommes allés essentiellement à Pékin, à Shanghai.
À Pékin et Shanghai, oui.
À Pékin, à Shanghai. Mais il n'allait pas beaucoup plus loin. Il y avait la guerre civile, il y avait à ce moment-là les concessions françaises, concessions anglaises, concessions allemandes.
Il y avait des concessions. Il y avait un portrait à faire de tout cela,
Il était là, entre les généraux qui se faisaient la guerre entre eux. La Chine était véritablement, ça n'a rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui, et rien à voir non plus avec la Chine que j'ai vue en 1973, qui était encore la Chine de Mao. Et alors là, le grand bond en avant, c'est pas Mao, c'est maintenant, c'est aujourd'hui.
Donc l'ouvrage d'Albert Londres, je le rappelle, La Chine en folie, était paru en 1925.
Oui, mais il y en a eu plusieurs sur la Chine, il y est allé souvent. Et puis, il avait écrit, et nous sommes allés en Turquie, parce qu'il n'y est jamais allé. Il a écrit, si je t'oublie, Constantinople, n'est-ce pas? Et j'ai dit à mes confrères, il n'est jamais allé en Turquie, il a erré sur le bord, il est allé sur des bateaux, il est allé en Grèce voir les troupes qui se battaient en Turquie, etc. Nous irons en Turquie, à Constantinople, parce qu'il n'y est jamais allé. Alors nous y sommes allés il y a quelques semaines.
Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.
Avec Henri Amourou, nous sommes bientôt partis pour Istanbul, puisque vous allez nous raconter comment s'est déroulée cette remise des prix Albert Londres cette année 2005.
Elle s'est déroulée de façon absolument merveilleuse, remarquable, et c'est pour tous les confrères qui étaient présents, nous étions une vingtaine, ils ont tous dit que c'était le plus beau voyage qu'ils avaient fait. Je dois dire que nous avons bénéficié de conditions exceptionnelles, car nous avons été d'abord admirablement reçus par l'ambassadeur de France, M. Poudade, par le consul général à Istanbul, par le conseiller, par le directeur du lycée Pierre Loti, je reviendrai sur le lycée Pierre Loti tout à l'heure.
Oui, on détaillera ce point.
Et puis, nous avons été admirablement reçus également par les Turcs, par le service culturel turc, l'office du tourisme turc, qui nous a aussi facilité beaucoup le travail. Quand je dis que nous sommes allés en Turquie, c'est naturellement
à Istanbul.
Nous sommes allés à Istanbul, voilà. Qui n'est pas la Turquie, qui est sur l'Europe. 3% du territoire et 11% de la population en Europe. Je dis cela parce que on nous a beaucoup parlé d'Europe.
Bien sûr, ça ne m'étonne pas.
Il y a un grand appétit d'Europe et, si j'ose dire, un appétit agressif d'Europe. Nous sommes donc allés à Istanbul, bien entendu 5 ou 6 jours, pas davantage, en visitant, en écoutant, en voyant le plus de gens possible. Nous sommes allés on nous a mis en contact avec beaucoup de personnes. Nous avons été reçus par le plus grand groupe de presse turc, qui est un groupe très important. Il y a là, dans l'avion, j'avais pris un journal turc. Je suis incapable, naturellement, de lire le turc. J'avais pris un journal turc, mais en revanche, si je suis incapable de lire un journal turc, je sais voir et décrypter un journal turc. Et d'abord, ce qui m'a frappé, c'est l'abondance de la pagination. Il y avait...
Très gros journal.
80 pages. Et l'abondance de la publicité, 50% au moins en publicité. Dans ce journal, qui est un journal populaire, je crois, mais enfin quand même de grande diffusion, dans ce journal, peu d'articles longs, c'est vrai. Ce qui m'a frappé également, beaucoup de photos féminines, mais pas des photos comme dans les journaux de bas niveau en Angleterre, pas du tout. Des photos de femmes qui étaient interviewées ou qui interviewaient. Bon, il n'y avait pas du tout de photos légères, dans, je mets le mot entre guillemets.
Ça veut dire que les femmes ont une part, ont des choses à dire et on leur fait dire.
Ça voulait dire ça. La réforme d'Atatürk a été une réforme absolument considérable. Atatürk est un véritable révolutionnaire. Atatürk est un homme qui a fait
changer les structures,
changer
les mentalités
par la force, par la force. Exactement comme la Révolution française avait fait changer par la force un certain nombre de choses. Mais Atatürk, à mon avis, a été plus loin que la Révolution française, car ça a duré. Il n'y a pas eu de restauration. Il n'y a pas eu de restauration. Et vous ne voyez pas de femmes voilées. Et vous voyez pas du tout. Vous n'en voyez pas une. Je n'en ai pas vu seule.
Alors
pas
que dans d'autres pays,
alors,
on en
voit.
Oui,
alors vous avez, ils revendiquent la laïcité, ils défendent absolument la laïcité. Cela dit, il y a évidemment des minarets, il y a évidemment des synagogues, il y a évidemment des églises catholiques, et il y a évidemment, des lycées. Alors il y a des lycées français.
Ah, parlons du lycée français. Il y en a plusieurs, je crois.
Il y en a 5. Il y a une grande faculté, c'est Galatasaray, qui est une faculté qui est très connue, doublement connue, parce que d'abord, d'elle est né un grand club de football, l'un des plus grands clubs de football mondiaux. Hein. Je ne sais pas si vous suivez le football, c'est passionnant.
Moins que vous, certainement,
oui,
monsieur Amoureux.
Le football et la Formule 1, il faut suivre le football et la Formule 1. Et le tennis aussi, d'ailleurs. Bon.
Donc, la grande université
Galatasaray, grande équipe de football, et qui fait concurrence à la grande université américaine. Alors ça, parce que les Américains, naturellement, sont arrivés, sont implantés là. Et puis, c'est un lycée français, dont le lycée Pierre Loti. J'avais une idée, ça a l'air un peu idiot de dire j'avais une idée comme ça, ça fait un peu gaulien, mais enfin, bon, j'avais une idée. C'était de pas faire remettre ce prix, comme nous le faisons d'habitude lorsque nous sommes à l'étranger, à l'ambassade de France. En effet, le prix Albert Londres a été remis à l'ambassade de France à Moscou et à l'ambassade de France à Pékin.
Mais on n'est pas obligé de faire toujours pareil.
Oui, mais il faut trouver un lieu qui soit un lieu français.
Oui.
Nous ne pouvons pas remettre le prix Albert Londres ailleurs que sur un lieu français.
Bien sûr.
Donc, je me suis dit, il y a le lycée Pierre Loti. Et le proviseur, le directeur, qui est un homme absolument charmant, nous a très bien compris. Il est venu à Paris, je l'ai vu, il est venu chez moi, et il a très bien compris ce que nous souhaitions. Donc nous avons remis le prix au lycée Pierre Loti. Dehors, c'est très beau, c'est à côté du c'est sur le Bosphore,
Il y a des lycéens heureux, alors, qui, vu sur le Bosphore.
Et alors là, il y a un petit bois léger, il y a un vallonnement, puis alors en haut, il y a les bâtiments, et nous étions en bas, pas loin de la petite route qui passe, où il n'y a pratiquement pas de circulation, ce qui est rare en Turquie. Et là, nous avons... Le proviseur avait admirablement compris.
Proviseur qui s'appelle Monsieur Servant.
Monsieur Servant.
Voilà, on va dire son nom pour le remercier.
Il faut dire son nom pour le remercier. Oui, Monsieur Servant est un homme remarquable et qui a très bien compris notre...
Combien d'élèves dans ce lycée ?
Oui, il y en a 400 et les élèves étaient là. Et quand nous sommes arrivés, il y avait des élèves d'origine turque et des élèves d'origine française. Puis il y avait aussi d'Italiens, d'Allemands, enfin quelques-uns. Les élèves français ont chanté l'hymne turc. Et les élèves turcs ont chanté la Marseillaise. Mais tous les couplets de la Marseillaise, y compris nous entrerons dans la carrière, quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Ils ont chanté ça aussi.
Ils savaient des couplets que les jeunes Français ne seraient bien incapables de réciter.
Très émouvant, très très émouvant. Et je suis très reconnaissant, moi, parce que c'est alors à ce moment-là, l'ambassadeur, il y a eu la remise des prix. à nos confrères qui nous avaient rejoints deux jours avant, et c'est-à-dire le prix d'écrit à Madame Nungared, qui était au Monde, et qui avait fait de très remarquables articles, très émouvants, très bouleversants, sur le drame de Beslan.
C'était une école, qui avait été prise en otage.
Où il y a eu 300 morts, 320 ou 330 morts, dont 150 gosses. Et quand on lui a remis le prix, tout ça s'est déroulé en plein air, je vous l'ai dit. J'ai parlé, deux de nos confrères étaient avec moi pour lui remettre le prix. Et il y avait Nico Jean et puis l'Artegui, le pauvre est fatigué, il est au jury, mais il est fatigué.
La Couture.
Et Saint-Exupéry. Non, La Couture n'est pas au jury. Et donc, il y avait donc deux de mes confrères avec moi. Et elle n'a pas pu parler tellement elle était émue, car elle revivait ce qu'elle avait vécu. Elle revivait, elle n'a pas pu parler. Les larmes lui sont montées aux yeux, elle n'a pas pu parler.
Donc Nathalie Nougéred, correspondante du Monde à Moscou.
Oui, correspondante, qui est une très très remarquable journaliste.
Quel âge a-t-elle ? Est-elle jeune, moins jeune ?
38 ans, 37 ans, 38 ans. Et puis nous avons remis le prix de l'audiovisuel à deux journalistes, qui sont de grands reporters de grande qualité, donc Degnaud.
Grégoire
Degnaud.
Est-il parent avec.
Je ne sais pas, nous n'en avons pas parlé. Je dois dire qu'il n'en a pas parlé. Degnaud. On ne lui a pas posé la question, il n'en a pas parlé,
Bon, donc on ne saura pas.
Donc on ne saura pas, en tout cas, ça ne joue jamais dans ce qui nous concerne, jamais.
Non, ce n'était pas un critère, c'était une curiosité.
Non, mais non. En tout
Grégoire Degnaud,
c'est un homme bâti
Martin.
En force qui doit mesurer 2 mètres 3 ou 4, qui est une force de la nature et qui a fait, avec Martin, ils ont fait un reportage qui a duré un mois et demi de travail, qui est passé d'ailleurs sur la 2, qui va repasser, je crois, ces jours-ci, et qui consistait à suivre, depuis le début de la chaîne, si j'ose dire, ces gens qui veulent partir, ces Marocains pauvres, qui veulent une vie meilleure. Et il faut toujours se mettre à la place des gens. On critique l'immigration, on est contre l'immigration, on dit qu'il y en a trop, c'est vrai, il y en a beaucoup trop, c'est vrai, tout ça est vrai. Simplement, il faut se dire, si j'étais né malien, ou si j'étais né tchadien, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que je ne ferais pas comme eux ?
Et pourquoi ont-ils envie de partir s'ils étaient bien chez eux ? Ils n'auraient pas envie, bien
voilà,
sûr.
Si j'étais, donc, il les a suivis, il s'agissait de Marocains, n'est-ce pas, qui partent du sud Maroc et qui, avec des passeurs qu'ils paient très cher.
Oui, ce sont des clandestins qui paient,
qui ont payé 1000 euros. 1000 euros pour eux, c'est une fortune. Et après, on leur donne un bateau, ils se mettent sur un bateau qui mesure 6 à 7 mètres, sur lequel ils sont 25 ou 26, et les passeurs ne les accompagnent pas. Au début, les passeurs les mettaient sur des bateaux normaux, qui pouvaient tout à fait faire l'aller-retour. Mais s'ils sont pris, ou s'ils étaient pris, puisqu'ils ne sont plus pris, puisqu'ils ne passent plus, s'ils étaient pris par les Espagnols, ils avaient 15 ans de prison. Alors évidemment, avoir 15 ans de prison, ça vous refroidit à l'avance, donc ils n'y vont plus. Et ils y mettent au service de ces gens qui vont partir vers les Canaries, une barque pourrie, un moteur octogénaire ou nonagénaire, et ils disent, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui sait un peu la navigation ? Il y a toujours un crétin qui
dit... Un ancien pêcheur, oui.
Oui, moi, je sais. Bon, alors voilà. Pendant 3 heures, cap au nord, puis après cap au sud-est, ou je ne sais pas quoi, puis après, dans 17h ou 18h, tu apercevras les montagnes, c'est là. C'est là où c'est la mer. Il y a la mer à côté. Aux Canaries, il y a la mer à droite, il y a la mer à gauche, il y a la mer devant, il y a la mer derrière. Bon. Alors ils disent, tu apercevras des montagnes, c'est là.
Donc, c'est les envoyer quasiment à la mort.
C'est les envoyer très souvent à la mort. Et d'ailleurs, la première tentative s'est soldée par un naufrage, car le bateau dans lequel était Degnaud est parti, bien sûr, mais la troisième ou quatrième vague, c'est toujours la troisième ou quatrième vague qui, vous savez, la plus forte souvent, est arrivée. Celui qui croyait connaître la navigation a coupé le moteur, si bien que le bateau s'est mis en travers, n'est-ce pas ?
Il a chaviré,
et il y en a deux qui sont morts, noyés. Degnaud, lui, qui s'est nagé très bien, s'en est sorti, mais il a perdu des appareils, naturellement. Et puis, il a fait la traversée après avec eux, et personne ne l'avait faite, cette traversée. Personne. Il a fait la traversée, ils ont écopé, me racontait, ils ont écopé pendant 19 heures. parce que le bateau,
il n'y
avait,
oui.
avait pas de fond, il n'y avait pas, il y a rien. C'est, vous savez, la cale, et puis c'est l'eau tout de suite. Alors ils ont écopé pendant 19 heures, puis finalement ils sont arrivés. En principe, il est recherché par la police espagnole. Enfin, il s'en est tiré. Alors nous, avons remis ces prix, là, et c'est un très bon choix que nous avons fait avec ces trois confrères, qui sont des confrères de grande qualité. Vous savez, si l'on regarde la liste des prix donnés par le jury du prix Albert Londres, depuis la création, il y a très peu d'erreurs. Très, très peu. Vous savez, il y a très peu. Nous avons généralement toujours fait de bons choix.
De bons choix, oui.
Indépendamment du journal, indépendamment. Là, il n'y a pas de copinage. J'ai institué, lorsque j'ai été élu président, une règle qui est la suivante, c'est que personne ne peut avoir plus d'un pouvoir. Car quelquefois, il y en avait qui avaient trois pouvoirs.
Oui, ceux qui pouvaient faire balance, accentuer des
choix.
Je vous assure
qu'avec trois pouvoirs, on peut faire une élection. Là, il n'y a qu'un pouvoir, le président n'a pas de voix prépondérante, et comme ça, c'est l'égalité dans la fraternité et dans la liberté.
Canal Académie.
Thank you.
Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Donc, Henri Amouroux, ce reportage, ce travail, ça prouve que le grand reportage existe tout de même.
Oui,
toujours.
Il existe, mais je dois dire qu'il n'est pas mis, il est moins mis en honneur qu'auparavant, pour les raisons que j'ai dites il y a un moment, en débutant cette émission, dans les journaux. Dans les journaux, par exemple, à la radio, il y a peu, sauf à France Inter, sauf France Culture, qui fait des reportages, il y a peu de reportages.
Oui.
À la télévision, il y a du reportage, mais on le repousse tard, n'est-ce pas ? On a, à mon avis, à tort, mais c'est comme ça, on a un peu privilégié tout ce qui est quelconque, tout ce qui fait de l'audience, et il faut faire de l'audience. Mais bon, on peut aussi mêler les choses. Vous avez bien vu, d'ailleurs, que les émissions littéraires qui faisaient de l'audience, car un homme comme Pivot a amené beaucoup...
Énormément
la lecture.
Absolument.
Et puis finalement, eh ben, il s'est retrouvé à minuit. Mm. Eh bien voilà, il s'est retrouvé à minuit. Or, tout ça, c'est Pivot était un homme qui a beaucoup fait... est un homme remarquable, qui a beaucoup fait pour la lecture. Et le grand reportage ferait beaucoup pour la connaissance. Parce que vous ne pouvez pas raconter trop de blagues, d'histoires. Il faut que vous vous engagez, il faut vivre. Beaucoup de journalistes, je pense, sont victimes de leur métier. Je pense naturellement à Florence Omnas et à son guide. Mais je pense à tous ceux qui sont tués pour leur métier, les photographes dont on ne parle pas beaucoup.
Plus d'une centaine par an, je crois.
Non,
de...
pas une centaine, mais enfin 37
ou 40. Mais si on compte tous les journalistes
40,
du monde entier,
37,
oui.
40, 45.
Ah, ce n'est pas le chiffre
non,
que je pensais alors.
Non, 37. Mais c'est déjà beaucoup, vous savez. Pour faire une photo, il faut aller à quelques dizaines de mètres du sujet, ou à 50 mètres du sujet. Vous ne pouvez pas en faire la photo à 3 km ou à 10 km, n'est-ce pas ? Pour écrire, pour vivre, il faut y aller. Tous ceux qui ont été correspondants de guerre, tous ceux qui se sont trouvés...
Vous avez été vous-même correspondant
oui,
de guerre.
Oui, correspondant de guerre, mais...
Allez sur Dien Bien Phu, si ma mémoire est bonne.
Oui, mais non, mais Dien Bien Phu, j'y suis allé avant la grande attaque, j'ai participé à une sortie qui a échoué, mais ça c'est une autre histoire. Mais en vérité, un homme comme Schindlerfer, lui, est resté tout le temps à Dien Bien Phu. Et puis, Perrault, qui était un remarquable photographe, a été tué à Dien Bien Phu, et mort après en essayant de s'évader à Dien Bien Phu. Et les deux autres journalistes qui sont arrivés avec l'avion qui a amené Schindlerfer ont été blessés, dont un a perdu une jambe.
Oui, il y a des risques inhérents à ce métier qui sont évidents. Naturellement, il ne faut pas les oublier.
Mais on les assume. Hier, j'ai vu quelqu'un qui me dit « Pourquoi vous faites ça ?» Parce que c'est mon métier. Parce qu'il y a une honte à raconter quelque chose, il n'y a pas à l'avoir vu. Un jour, j'ai demandé, j'étais sur un porte-avions, la Romanche. J'étais seul journaliste à bord. Le lendemain, il y avait un bombardement, un piqué naturellement, sur des positions en Vietnam. J'ai demandé à y aller. On me dit oui, l'amiral me dit oui. Dans la nuit, je me suis dit, tu es complètement idiot, tu as 4 enfants, qu'est-ce que tu vas... Pourquoi tu demandais ça ? Tes lecteurs s'en fichent, ils ne savaient pas que tu pourrais plus demander à y aller. Mais le lendemain, je pourrais souhaiter qu'il y ait de la brume et que l'avion ne puisse pas décoller. Oui, mais il n'y a pas de bruit, mais l'avion va décoller. Je ne peux pas me débiner. Je ne peux pas.
Non, j'étais c'est chargé. Pas dans votre nature,
c'était...
je pense.
Si, c'est pas le problème. J'étais chargé du canot de sauvetage. Dieu merci, je n'ai pas eu à m'en servir parce qu'on se serait noyés tous les deux. Le pilote qui s'appelait Hervio, qui est un homme, qui a le lieutenant de verso, Hervio. Bon, tous mes confrères qui sont engagés, Jules Roy, Jean Roy qui a été tué bêtement, mais par. On est rarement tué intelligemment d'ailleurs, qui a été tué à Port Saïd. Je l'ai vu, j'étais à Port Saïd lors de l'expédition.
Oui, il y a de vrais dangers d'ailleurs, on le voit maintenant avec les journalistes pris en
dangers,
otage, mais il y en a
entendu.
D'autres.
Il y a de vrais dangers, pourquoi ? Parce que la presse
dérange. Et heureusement qu'elle est là.
Oui, alors bon, tous ces confrères qui sont pris en otage, les Roumains, les Italiens, les Français, sont pris en otage parce qu'on voudrait étouffer la presse, faire en sorte qu'elle ne parle pas.
Et vous
pas.
Ne trouvez pas qu'aujourd'hui on aurait tendance, et c'est triste, à faire plutôt de la communication que de l'information, et ça n'est pas la même chose,
c'est même tout à fait différent. Mais faire l'information, c'est de plus en plus difficile, pour une raison simple d'ailleurs, c'est lorsque vous avez un événement aujourd'hui, bon, la guerre, mettons, en Irak. les journalistes sont mis dans un cocon. Ils n'ont aucune liberté d'action. Ils sont pris en main par les services américains, les services qui font la guerre, c'est généralement les Américains. On les renseigne, il y a des conférences
de presse.
C'est de la communication.
Voilà.
Ils ne vont pas où ils veulent. Ce n'était pas vrai. Les Américains, ça c'est la revanche du Vietnam. Parce que la guerre du Vietnam a pris fin à la suite des images de la télévision américaine qui montraient ce qui se passait au Vietnam et des reportages qui parlaient des soldats américains qui en avaient par-dessus la tête, qui se saoulaient la gueule, qui se shootaient et qui...
Il ne fallait pas montrer ça, évidemment, ni au peuple ni aux familles.
Mais ils se battaient comme ça, ils en avaient par-dessus la tête parce que c'était une cause pour laquelle ils ne croyaient pas un dollar, ils n'avaient pas mis un dollar là-dessus. Bon. Alors ça
a changé les choses. Néanmoins, il y avait quand même des reportages.
Avant la guerre d'Indochine des Français, vous étiez seul. Vous n'étiez pas deux journalistes, ni trois ou quatre. On pouvait très bien se retrouver tout seul. Beaucoup de mes confrères, ils étaient seuls. On allait sur un coup, on suivait une unité, on partait avec une unité, on vivait avec elle, on couchait, on vous donnait une ration de soldats, on restait avec eux comme
mais
ça.
Mais ne croyez-vous pas qu'on puisse encore le faire sur des fronts comme l'Afrique, par exemple? Parce que là, vous citez l'Irak, qui est évidemment très encadré par les États-Unis, mais en Afrique. Croyez-vous qu'il y ait des milliers de reporters au Soudan, au Darfour,
mais alors,
et ailleurs?
Il y a aussi autre chose. Le reportage, la question cesse d'être brûlante lorsque la télévision s'en va.
Et oui.
Et lorsque la Somalie, par exemple. La Somalie, je suis sûr que c'est aussi le bordel que c'était. Hein, il n'y a pas de question, si le mot est académique. Mais il n'y a plus la télévision.
Alors plus personne ne s'y intéresse.
Harry se monte en puissance avec la télévision et dégringole quand la télévision s'en va.
Henri Amouroux, est-ce que vous n'avez tout de même pas envie de... Parce que vous dites que vous avez envie de quitter la présidence du jury, mais au fond, le prix Albert Londres, c'est un prix formidable.
Oui, mais il continuera sans moi. Je ne suis pas immortel tout en étant... Je suis éternel tout en étant immortel. Mais je ne suis pas éternel tout en étant immortel. Je ne suis pas éternel tout en étant immortel. Non, non, il continuera sans moi. Ça me passionne. Ça aurait été l'honneur...
Mais c'est passionnant et vous aimez ce métier, on le sent quand on vous écoute.
Ça aurait été l'honneur et la passion de ma vie. Ça a été l'honneur et la passion de ma vie.
C'était... Et pourtant, votre vie, vous avez fait beaucoup de choses. On ne peut pas en parler pour l'instant, mais certainement nos auditeurs pourront en profiter dans une autre émission. En tout cas, nous avons eu grand plaisir à écouter Henri Amouroux nous parler des prix Albert Londres. Je dis les prix parce que maintenant, il y a un prix pour la presse écrite et des prix audiovisuels qui sont au moins aussi importants. Cette année, c'était donc à Istanbul. Henri Amouroux, merci beaucoup.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.